poursuivez les luttes pour l'émancipation humaine. Un homme, disait Maxime Gorki, ça sonne fier. Soyons fiers d'être des hommes. Bonheur et longue vie à tous.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Charles Palan. Croire au matin.
Flight number 2, arriving from New York.
Charles, je suis tout content de vous trouver là maintenant. Ben, presque un an après, hein, on vous avait rencontré au Glière, on vous a écouté au Glière. C'est un endroit formidable et on a, je vous avoue une chose... Pour ma plus grande honte, j'ignorais complètement qui vous étiez. Et j'ai été étonné par ce discours. On a découvert un homme. Et chez les gens qui ont vécu la déportation, qui ont vécu ces moments terribles de l'histoire, etc., très souvent, c'est un peu les mêmes discours. C'est tout à fait bouleversant, mais c'est toujours un peu les mêmes discours. Là, on a senti une autre dimension. On a senti une dimension politique. Dans votre façon de parler. Et puis, ce que vous venez de me dire en entrant, c'est que vous avez vécu avant et c'est que vous avez vécu après. Donc, vous ne pouvez pas être résumé ni réduit à ces quelques années terribles, c'est vrai, de votre vie. Alors, si vous voulez, on va commencer par le commencement. On va suivre, Charles, si vous voulez, la ligne à peu près chronologique de votre existence. La difficulté que nous avons, c'est faire rentrer 92 ans de vie dans une malheureuse heure d'émission de 50 minutes. Il fallait qu'on passe de 92 ans à 50 minutes. Oui. Donc ça veut dire des choix. Alors commençons par le commencement.
Oui. D'abord, en 50 minutes, on peut raconter beaucoup de choses et même plusieurs vies. La mienne a commencé à Paris en 1922. Mes parents étaient des immigrés, polonais, juifs. C'était leur deuxième immigration. Mon père et ma mère s'étaient connus avant la Première Guerre mondiale. Et mon père sortait de prison. C'était un militant anarchiste.
Où ça, en Pologne ?
En Pologne. Cette partie de la Pologne était dominée par la Russie à l'époque. La Pologne a été reconstituée après la Première Guerre mondiale. Et ce jeune couple a fui vers l'Angleterre. Il faut dire que la grande fuite se faisait vers l'Amérique.
Oui.
Mais c'était conditionné par l'épaisseur de la bourse. Oui. Alors l'Amérique pouvait s'arrêter en Allemagne, pouvait s'arrêter en Belgique. Pour eux, c'est arrêté en Angleterre. Et j'étais donc des exilés politiques. La Première Guerre mondiale terminée, qui s'était très bien passée pour eux, ils avaient le droit d'asile, donc pas mobilisables, ils gagnaient bien leur vie et tout. La Première Guerre terminée, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a la Révolution en Russie. Eh bien, c'est de ça qu'ils rêvaient. Et ils partent, comme un certain nombre de familles exilées. Ils partent, on vend tout et on part pour Moscou pour suivre la Révolution. Or, quand on arrive dans la Moscou de Lénine régnant, les conceptions anarchistes ne sont pas tout à fait celles qui ont cours. Et bientôt, c'est un autre exil, on vend le reste et on se sauve. Et mes parents ont déjà deux enfants. Et mon père arrive à Paris. Et tout de suite, on trouve du travail dans la France après Première Guerre mondiale. 1,5 million de morts, 3 millions de malades, blessés, gazés, amputés. La France est vainqueur, mais elle est à terre, hein, faut la relever. Alors mon père travaille quelques mois et fait venir ma mère, porteuse d'une merveilleuse espérance que vous avez devant vous aujourd'hui, 90 ans après. Et c'est donc comme ça que je viens au monde. À Paris, Je suis né à l'hôpital Rothschild, peut-être dans le même...